the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it.
Voilà, bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Crapone pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, on a comme invité une personne qui s'appelle Vanessa Fuchs, qui est vétérinaire, mais vous allez voir, pas seulement, puisqu'elle écrit beaucoup de livres. On va la retrouver dans quelques instants.
There's not a trace of red on the sidewalk Sunday morning, baby. Lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mac the knife from a tugboat by the river? A cement bags drooping down. Yes, the cement's just dear Louis Miller disappeared, dear.
Voilà, bien, on retrouve tout de suite Vanessa Fuchs. Vanessa, bonjour.
Bonjour.
Alors Vanessa, tout d'abord, on va vous découvrir parce que vous êtes quand même un peu anachronique, je dirais. C'est vrai qu'au départ, donc, vous êtes vétérinaire, vous m'avez dit que vous étiez d'origine russe avec ce nom, Fuchs, et que vous avez beaucoup voyagé.
Hein ? Oui, j'ai beaucoup voyagé, surtout quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance de pouvoir aller un petit peu partout grâce à mon métier de vétérinaire. Donc j'ai terminé mes études aux États-Unis dans l'État d'Alaska. Et j'ai eu des missions en Argentine, Argentine-Chili, en Afrique. Voilà. Donc toujours dans le cadre de mon métier. J'avoue que j'aime pas trop voyager en touriste, en fait. Je m'ennuie rapidement.
Oui, mais enfin bon, dans le cadre de votre métier, ça fait quand même pas mal bourlinguer, hein, parce que c'est bien, mais c'est vrai que quand on est passionné, qu'est-ce qui vous a attiré de vouloir connaître un peu? C'est différent dans tout le pays où vous êtes passé? Le vétérinaire ne travaille pas pareil?
Eh bien, en fait, c'est marrant parce que c'est mélangé aussi avec la littérature, parce que je suis une grande lectrice depuis toujours, et par exemple, le premier vrai gros voyage, même si j'avais voyagé avec mes parents un peu en Europe, c'était donc en Alaska. Et sur les traces un peu de Jack London, qui est un de mes écrivains phares. Et j'ai eu l'opportunité, voilà, en fin d'études, à l'époque, nous, on avait le droit de partir 6 mois ailleurs, du moment qu'on était affilié à une université. Et j'ai eu l'opportunité, voilà, de partir en Alaska, de participer à toutes les grandes courses de chiens de traîneau locales. La vie un peu dans le bush en Alaska en plein hiver. Et voilà, je me suis dit, ah ouh, je pars tout de suite, même si en tant que petite parisienne à l'époque, j'avais 22 ans, je me suis retrouvée, voilà, je me rappellerai toujours de mon atterrissage à Anchorage à minuit. À l'époque, on n'avait pas de GPS ni rien. J'avais l'adresse du gars chez qui je devais dormir, mais voilà, c'est une métropole américaine. Je venais d'avoir mon permis à l'époque. Je me suis retrouvée au volant d'un énorme 4x4 américain automatique. J'étais complètement paumée. J'ai mis 3 heures à faire un trajet qui durait en fait 20 minutes. Et je me suis dit là, mais où je vais? Qu'est-ce que je fous là? Et ça a été un peu comme ça tout le séjour. Mais ça forme énormément, et puis j'étais pas déçue par contre du côté Jack London, parce que c'est resté un peu la frontière ultime, ces territoires là en hiver il y a quasiment pas de touristes, c'est vraiment que les gens du cru, et ouais, c'est des expériences assez formidables.
C'est pas trop dur quand même, parce que quand on voit les reportages sur l'Alaska, là il fait pas les températures qu'on a actuellement, hein.
Alors malheureusement l'Alaska est aussi concernée par le réchauffement climatique, et de façon encore plus dramatique que nous, parce que c'est la fonte du permafrost a des conséquences assez importantes. Mais oui, à l'époque, moi j'ai eu des températures très froides, mais c'est pas tant ça finalement, c'est le changement de mentalité, de mode de vie. C'est des gens très durs qui sont là-bas. C'est le climat qui fait ça, mais également leur mode de vie. Puis les gens qui s'installent là-bas, c'est pas des gens qui ont envie d'avoir une vie très sociale, quoi. Ils ont envie d'être seuls, ils ont envie de parler à personne. Donc du coup, quand vous arrivez dans leurs pattes, petite française, voilà, ils savent même pas où c'est la France. Enfin, et du coup, voilà, c'est plutôt le choc des cultures qui était important.
Vous avez là, est-ce qu'on a les Inuits de ce côté-là ou pas du tout?
Alors oui, tout au nord, on a des populations effectivement inuites sur le nord, et sinon on a des populations amérindiennes également sur la partie forestière en fait. Voilà, les Inuits, ils sont plus sur la partie banquise, celle où il n'y a plus d'arbres. Hein. Voilà. Sinon, sur la partie amérindienne, sont les Indiens athabascans qui sont majoritaires.
Oui, justement, bah, vous parlez des Amérindiens en ce moment. On en parle beaucoup, hein, apparemment, dans les reportages, parce qu'ils ont des gros problèmes avec leur forêt. C'est leur forêt, en fait.
C'est leur forêt.
Et on les déforeste à une allure. Alors là, il y a l'air d'avoir quelques compromis, mais bon, ça a l'air d'être compliqué quand même. Hein,
Alors oui, autre sujet qui me passionne, les Amérindiens, effectivement, pendant des années, en fait, ont été parqués dans des réserves et privés de leurs terres et de leur mode de vie ancestral, au nom d'une assimilation vraiment forcée et puis surtout un abrutissement par l'alcool et la drogue. Il faut savoir que l'espérance d'un Sioux Lakota sur une réserve comme Pine Ridge, c'est de 47 ans. Dans un territoire comme les États-Unis, c'est quand même assez étonnant. Mais par contre, on voit l'émergence effectivement maintenant de mouvements contestataires qui sont même souvent leaders sur des problèmes écologiques comme les constructions de pipelines ou des choses comme ça. Et par leur attachement à leurs terres, en fait, ils sont même voilà, leaders de grands mouvements écologistes et ça commence à bouger. Et parce que certains ont réussi quand même à se sortir des réserves, à faire des études, à être considérés. Ils ont une ministre maintenant de l'environnement à Washington qui est amérindienne. Donc voilà, ça commence à bouger lentement, mais c'est vrai que c'est dur de se défaire de plus d'un siècle d'asservissement non avoué, en fait. Parce que par exemple, les États-Unis, même on avait eu l'espoir avec Barack Obama, mais ils n'ont jamais posé le nom génocide sur ce qui s'est passé pour le peuple amérindien. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on soigne en Alaska? Parce qu'il y a des chiens, sûr?
Oui, des chiens de traîneau qui sont des athlètes de haut niveau. Après, il y a aussi énormément d'animaux de compagnie hein, qui sont là-bas. Des animaux de compagnie un peu particuliers, puisque des fois, des gens ont recueilli des lynx, des ours, voilà. Mais essentiellement, oui, il y a des chevaux aussi, beaucoup. Et des chiens de traîneau, et des très grandes courses de chiens de traîneau sur le territoire alaskan et le voisin canadien sur justement ce qui est en train de brûler actuellement, les Northwest Territories. Et voilà, énormément de chiens de traîneau avec des chiens qui peuvent avoir de très hautes valeurs. Et puis tout ce qui est faune sauvage également, qui est très réglementé et protégé en Alaska.
Alors vous êtes parti dans les études vétérinaires, c'est parce que il y a un côté familial ou pas du tout? Vous avez été là-dedans comme ça?
Absolument pas, ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est. Alors moi je me souviens pas, mais mes parents m'ont dit que voilà, de toute petite, même déjà dans la poussette, ils m'ont emmené une fois au bois de Boulogne, j'ai vu des chevaux, j'étais en transe. Et ça a toujours été ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit. Et alors c'était ça et écrivain. C'est-à-dire j'ai toujours dit je veux être vétérinaire ou écrivain. Puis du coup j'ai eu l'opportunité de faire les deux. C'était bien. Mais oui, il y a toujours eu cet amour des animaux. Pourtant, du coup, dans un contexte pas du tout favorable, puisque j'habitais en plein centre de Paris. Alors certes, ma maman avait de la famille à la campagne, donc j'y allais régulièrement. On avait une résidence secondaire en Normandie, donc bon, là, il y avait également des animaux. Mais au quotidien, c'était plutôt Paris intramuros. Donc, voilà. Mais même à Paris intramuros, très rapidement, j'ai ramassé des pigeons, des chats. Je ramenais ça à la maison. Voilà, ça a été assez rapide. Et la vocation, elle a été vraiment directe dès que j'ai pu la verbaliser, en fait.
Alors, on le voit, et puis ça se confirme, puisque vous m'avez dit que vous êtes arrivé à Craponne dans le cabinet Philippon et compagnie, Anco. Donc, parce que vous cherchez du terrain pour acquérir une ferme. Alors, ça aussi, c'est original, quand même.
Oui, c'est... enfin... Après, quand on aime les animaux, en particulier les chevaux, et que, bah oui, j'avais été installée en Poitou-Charentes, puis pour raison familiale, j'étais partie. J'avais vraiment envie de me réinstaller et à avoir mes chevaux, et puis accueillir d'autres chevaux, parce que une de mes spécialités, entre guillemets, c'est la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire remettre un animal sur pied, lui permettre d'avoir pas forcément la même carrière, mais une nouvelle carrière, une nouvelle utilité. Et du coup, voilà, j'ai cherché longtemps sur la plaine. C'était vraiment pas possible compte tenu de la pression foncière agricole. Et du coup, j'ai trouvé effectivement la ferme que je voulais à Husson. Et je me suis dit, ça serait super de trouver un boulot beaucoup plus près que là où j'étais dans la plaine. Et ben, du coup, voilà, je suis arrivée à Craponne. Et mes amis m'ont dit, waouh, ouais, mais Craponne, tu vas adorer. Il y a un festival de musique country. Il y a un rodéo en Ardèche juste à côté. Ça va vraiment être ton endroit. Et c'est vrai, c'est mon petit Wyoming à moi.
Ah oui, ouais. Un petit peu plus petit, on va dire. Voilà, donc ça, c'est un peu... Votre, on ne va pas parler parce que vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de pays, hein, donc enfin ça a été le premier, je pense, c'est celui qui vous a le plus marqué, non?
Oui, parce que je suis restée, c'est là où je suis restée le plus longtemps. J'y suis retournée l'année d'après et c'était un vrai choc de culture. Alors qu'on se dit bon, ça reste les États-Unis, non, il y a un vrai choc de culture. Après, je pourrais pas y vivre tout le temps. Les pays où je pourrais vivre, c'est l'Irlande, qui est un de mes pays de cœur, et l'Argentine.
L'Irlande, oui, c'est un pays.
Ah bah l'Irlande, oui, c'est.
Où les gens sont très accueillants.
Oui, c'est ça. L'Irlande, c'est plus pour les gens que pour le climat. Hein, ouais, faut bien dire. Voilà, l'Irlande, c'est formidable. Et l'Argentine également.
Alors, je ne connais pas l'Argentine.
L'Argentine, mais... il y a les deux. Il y a les paysages et les gens qui sont extrêmement accueillants et gentils. Ouais,
ouais, alors l'Irlande, je connais, j'y ai été. Moi, ce qui m'a surpris, je connaissais l'Angleterre. Et ce qui m'avait surpris en Irlande quand je suis revenu, c'est les pubs. Ah, j'avais vu les pubs en Angleterre, mais. Bon, c'est bien, c'est magique. Mais en Irlande, j'ai été scotché. Parce que ça va presque comme Tintin, hein. 7 à 77 ans, c'est incroyable. Hein, la population qu'il y a dans... Il y a tout.
Oui, et puis très souvent, des musiciens live.
Ah oui, plein, oui.
Tout
ça,
le temps, voilà, des boeufs en permanence.
Ouais, ouais.
Ah ouais, ouais, c'est
mais
incroyable.
C'est cette différence de génération, parce qu'on a des gens qui ont 80 balais, il y en a d'autres qui sont tout jeunes, et puis tout fonctionne, là, c'est... Si, si, j'avais beaucoup aimé pour ça. Alors, on va parler de vos livres, parce que vous m'avez dit qu'on en avait écrit une dizaine.
10, ouais, le 11e est en cours.
Ça y est, c'est... Alors, bon, vous êtes dans le polar, mais pas que.
Ah non, pas que.
Ouais, vous avez commencé par quoi, vous, en fait?
Alors, j'ai commencé, par un polar. Alors non, j'ai commencé, en fait, au départ, comme un peu tout le monde, par des petites nouvelles, par des poèmes, des choses comme ça, mais... L'opportunité d'édition est quand même très limitée, donc c'était dans des fanzines, dans des petits magazines locaux. Et puis petit à petit, on grandit, on commence à écrire plus long, on écrit pour son tiroir, comme j'ai dit au départ, parce que ça reste dans le tiroir ou dans l'ordinateur. Et puis à force de lire des mauvais livres, je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi que je ne serais pas édité? Puis alors, au début, on est très naïf, hein, parce que on envoie son manuscrit à Gallimard, à Albin Michel, voilà. Donc on se reçoit des lettres, voilà. En particulier Gallimard, en fait, à la particularité, renvoie une lettre très désagréable. Les autres renvoient une lettre assez polie de refus, mais par contre, Gallimard, on reçoit une lettre très désagréable. Et du coup, bah, l'ego en prend un petit coup. Ce qui me rassure, c'est que plus tard, j'ai eu l'occasion, dans un salon littéraire, de rencontrer Jean d'Ormesson. Il m'a dit « Vous inquiétez pas, j'ai reçu la même. » Et vous voyez, maintenant, je suis au comité de lecture. Donc voilà, il ne faut pas désespérer. Et un jour, donc après, on vise plus petit, hein, on vise des éditeurs beaucoup plus modestes. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil. J'étais en train de soigner un cheval. Et j'ai eu un coup de fil en me disant, ben, j'aime votre manuscrit et j'ai envie de le publier. Voilà.
D'accord, oui, donc ça a débuté comme ça.
Voilà.
Votre premier éditeur, c'était qui?
Alors, en fait, c'est la maison d'édition a changé de nom, mais c'est le même éditeur. Le premier éditeur, c'était Les Contrebandiers.
Ah oui, c'est ce que j'ai vu là derrière.
Voilà. Une toute petite maison d'édition Paris-Rive-Gauche quand même, hein, mais
oui.
Ouais, ouais. C'est un monde très particulier, l'édition parisienne, ouais. C'est pareil, là, dans le genre choc de culture, on n'a pas besoin de faire 10 000 km, mais moi, qui étais à l'époque installée en province, étant non issue du milieu littéraire, c'est-à-dire pas professeur de lettres et pas journaliste, voilà, on est un peu aussi des extraterrestres.
Bon, alors, comment vous êtes venu, en fait, au polar, après?
Le polar, en fait...
Vous parlez de Jack London.
Oui, alors Jack London, c'est des genres de polar, en fait. Oui. Hein, c'est un peu des polars polaires. Ce que j'aime bien dans le polar, c'est le rythme. Et puis, c'est un peu ludique, parce qu'on en rajoute un peu dans le polar. Dans le polar, on grossit un peu le trait, c'est assez ludique. Voilà. Et après, j'ai fait des romans qui n'étaient pas forcément des polars. Mais le polar a un côté ludique, un côté sympa, ludique, où on peut un peu grossir le trait, on peut un peu faire de la... des choses un peu plus surdimensionnées. Et puis aussi, c'est un genre qui se lit beaucoup, qui se lit facilement par rapport à d'autres bouquins.
Et alors, bon, comme on reçoit quand même pas mal d'auteurs et qui font du polar, et souvent, ces auteurs, ils ont des personnages qui suivent leur polar. C'est le même genre pour vous? C'est complètement différent?
Non, c'est complètement différent. J'ai jamais le même lieu, jamais le même personnage. Voilà, j'aimerais bien... alors, parce que moi, je suis vraiment à l'instinct. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire m'arrive comme ça d'un coup, puis après, je la formate. Et j'aimerais bien, ouais, un jour avoir un personnage ou des personnages récurrents et faire une série. Mais pour l'instant, ça c'est pas. J'ai tout de suite eu une autre idée qui m'emmenait ailleurs, donc ça c'est pas produit. Et en plus, plein de gens me disaient, oh, mais on aimerait bien savoir ce qui devient, machin, parce que je fais toujours des fins très ouvertes sur mes romans. Et du coup, les gens ils font, il n'y aura pas de suite. Bah pour l'instant, j'avais pas eu d'idée de suite. Mais ça viendra peut-être. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien lire des romans où il y a des personnages récurrents, en particulier Fred Vargas. Et mais pour l'instant, ça ne m'est pas venu comme ça. Pour l'instant, j'ai toujours eu un autre lieu, un autre personnage voilà, qui s'est mis en place.
Alors, parmi vos 10 livres, est-ce que déjà votre premier voyage en Alaska vous a inspiré?
Alors, il ressort pas directement parce que j'ai pas fait un livre qui se passe en Alaska.
Non, mais je veux dire, oui, non.
Oui, il y a des personnages qui vont être inspirés. De toute façon, auteur, c'est assez auto-centré. Hein. On est toujours sur soi. Donc, en fait, il y a forcément des histoires qui nous sont arrivées qui ressortent. Mais pour l'instant, j'ai pas écrit directement sur l'Alaska, même s'il y a des moments où ça va se ressentir. Il y a beaucoup de romans où je parle du froid. En particulier, j'ai écrit un roman qui s'appelle Stalingrad Omnibus, qui est l'histoire d'un SDF. Donc le récit, quand je parle du froid, les gens me disaient « Mais c'est dingue, mais on croirait que tu as été SDF, comment tu peux connaître aussi bien le froid ?» Je dis « Bah, parce que moi, je suis vraiment froid. » Pas dans les mêmes circonstances, mais effectivement, tant qu'on n'est pas acclimaté à ce genre de froid, on le ressent très très violemment. Et du coup, bah, voilà, je l'ai exprimé dans un roman, complètement hors contexte et pas du tout dans le contexte de l'Alaska, mais par contre a priori ça sortait bien bien réel quoi.
Et alors est-ce que vous alors vous êtes dans l'univers du cheval, vous m'avez dit il y a aussi des romans qui...
Alors il y a des romans où il y a des contextes, il y en a un en particulier qui a été mon roman le plus primé, qui s'appelle Corde à gauche, qui se passe dans le milieu des courses hippiques de galop. Mais c'est juste un contexte, en fait. C'est vraiment l'histoire d'un homme dans ce milieu-là. Mais ce n'est pas le centre de l'histoire. Mon éditeur, ça le désespère. Il adorerait que j'écrive des histoires pour jeunes filles avec des petits poneys, parce que ça se vend très, très bien. Mais non, il y a toujours un clin d'œil à l'animal, quand même. Dans le dernier, par exemple, Le Mouroir des Véganes, c'est vraiment un polar que je qualifierais d'agricole, parce que je parle du milieu agricole, des mutations du milieu agricole, des difficultés du travail de la terre. Et donc il y a souvent un contexte agricole, rural, animal, même quand ça se passe en ville, mais qui est toujours un peu secondaire, qui n'est pas forcément le centre de ça, parce qu'en fait je suis là dedans toute la journée, donc forcément ça transparaît, mais j'ai pas forcément envie d'écrire des histoires d'animaux après.
Oui, alors c'est votre dernier celui-là, hein? Donc
le mouroir des véganes,
ouais. Vous l'avez situé à Saint-Étienne.
Oui.
Puisqu'il y a une belle photo du du puits Couriot.
Voilà.
Hein. Pourquoi cette photo déjà dans...
Alors ça c'était vraiment pour que les gens puissent identifier Saint-Étienne, parce que c'est quand même un,
oui.
Voilà. Et parce que on aurait pu mettre d'autres éléments de Saint-Étienne qui n'auraient pas forcément été aussi parlants que que le chevalement du puits Couriot. Et puis parce qu'il y a ce contexte de Saint-Étienne qui est une ville qui m'a plu parce qu'elle est pas, elle est bizarre, elle est, comme j'explique dans le roman, elle est mal foutue. C'est une ville qui est bancale, ça monte, ça descend, il y a des sens uniques, on ne sait pas où on va. On peut tourner un moment avant d'arriver d'un point A à un point B. Ça monte, ça descend, les trottoirs sont cabossés. Quand il pleut, ça déborde de partout. Et en fait, moi, du coup, les villes parfaites m'intéressent moins que ce genre de ville. Évidemment, je fais dans le roman un comparatif avec la grande rivale, si belle, voilà, encensée, et la petite sœur un peu moche, un peu noire, que peut être Saint-Étienne. Mais voilà, Saint-Étienne me plaît pour ce côté-là, pour ce côté cabossé, pour ce côté abîmé et en renaissance quand même. Parce qu'en fait, il y a énormément de renaissance à Saint-Étienne, il y a énormément d'activités culturelles, etc. Donc, c'est l'ébullition, c'est un peu le cratère qui renaît. Voilà. Donc, c'était une ville qui m'intéressait pour ça, pour sa mauvaise réputation, entre guillemets.
Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a eu la ville noire à une époque, hein, puisqu'il y avait toutes les mines. Hein.
Oui.
Alors, ce qui est assez particulier, c'est vrai que Saint-Étienne, on peut s'y perdre, mais si on sait, en fait, si on va en haut, au Gizet, par exemple, vous voyez toute l'avenue de... Enfin, l'avenue... La rue qui va de Bellevue à la terrasse, puis c'est une ligne droite. Et en fait, quand on sait, si on tourne à gauche ou à droite, selon où on est, on revient toujours la Grand Rue chercher le
nord. Oui, mais quand on sait.
Quand on sait, ouais.
Quand on sait pas, ouais. C'est compliqué quand même.
Et voilà. Puis c'est la ville comme Rome aux sept collines.
Voilà, cette colline bien tortueuse. Voilà, c'est quand on s'enfonce justement dans le territoire des collines où là ça commence à devenir compliqué.
Ouais.
Et même les Stéphanois m'ont dit, c'est vrai qu'ils changent quand même aussi assez souvent les sens uniques de sens.
Ah oui, ça c'est compliqué.
Voilà, ouais. Et du coup, même les Stéphanois pure souche, de temps en temps, ils ont un peu de mal à se repérer au moment des changements de sens unique. Quoi.
Alors, on disait de la grande banlieue, mais à une époque glorieuse des Stéphanois, des Verts. Ben, on disait, nous, que la banlieue, c'était Lyon. Enfin, ça, c'était sur le ton un peu humoristique. Alors, je vois, j'avais pas fait attention, là, sur votre page, première page, enfin, où il y a le Puy Couriot. Alors, il y a du charbon, apparemment, et il y a plein de cochons.
Ouais, il y a plein de cochons morts.
Ah, ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi voilà. On fait ça ?
Eh ben, en fait, bon, le livre parle de l'agriculture dans un contexte de polar, hein, et de l'affrontement de plusieurs tendances, sans pour autant porter un jugement. Hein, je précise parce que j'ai été assez attaquée par les associations animalistes sur le titre et sur la couverture que j'ai voulu volontairement provocative. En fait, c'est la confrontation de deux mondes, de deux époques. Même de trois époques, avec les paysans un petit peu à l'ancienne, les fermes classiques, les fermes beaucoup plus productives, beaucoup plus industrielles et leur nouveau mode de fonctionnement, et les gens qui sont complètement contre l'exploitation animale au sens propre, et qui a tort, qui a raison, et surtout où est la vertu, parce qu'en fait chacun s'empare d'une vertu en disant bah, moi je nourris les autres, moi je préserve l'environnement parce que j'ai une exploitation traditionnelle et je fais attention, etc. Moi je ne mange pas d'animaux, et en fait il y a une espèce de dispute de la vertu, et dans le roman on voit qu'en fait la vertu elle est un peu nulle part. Voilà, c'est très compliqué d'avoir par son mode de vie ou sa pratique d'avoir une vertu absolue en fait.
Ouais, enfin bon, moi c'est pareil, on juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, s'il veut du végétarien, végan. Mais depuis que le monde est monde, on mange des animaux. Hein.
Oui.
Alors bon, après, chacun son choix. Hein.
Oui, c'est ça. Mais après, le roman vient d'une expérience que j'ai eue sur l'agglomération stéphanoise. Et le titre m'est venu d'un agriculteur de la région stéphanoise. J'ai eu une expérience où j'ai participé à la saisie d'animaux dans une association animaliste sur la région, et les animaux étaient dans un état catastrophique. C'était des animaux qui avaient été volés dans des abattoirs, enfin retirés d'abattoirs par des actions musclées, on va dire. Mais en fait, derrière, ils se retrouvaient avec des gens qui n'avaient pas de connaissance de l'animal, qui ne savaient pas comment s'en occuper, et surtout qui appliquaient leurs propres principes qu'ils appliquent à eux, et ce qui est leur droit. Enfin, moi, il n'y a aucun problème si les gens veulent manger que du végétal. Mais par contre, il y a des animaux qui ont besoin de manger autre chose que du végétal, en particulier les porcs. C'est pour ça qu'il y a des porcs sur la couverture. Le porc est un omnivore, et si on lui donne vraiment que du végétal, en tout cas, il n'est pas censé manger de l'animal, mais il est vraiment omnivore, donc il a besoin de sources protéiques assez conséquentes. Et quand on lui donne pas, ben, l'animal il va pas bien du tout, de même que les jeunes animaux se nourrissent de lait et ont besoin de lait, voilà. Donc en fait on a eu des cas qui vont se retrouver dans le roman d'animaux en fait qui avaient été retirés de la mort de façon vraiment voilà, ça partait d'une idée assez altruiste, on va dire, en disant on va les retirer de la mort à l'abattoir, qui est évidemment la destination des animaux quand ils y sont, mais qui se retrouvait après dans un état de souffrance qui n'était pas la souffrance de l'abattoir, mais qui était un autre type de souffrance. Donc c'était pour ça, c'était pour mettre en parallèle plein de points de vue différents et voir qu'en fait, bah, y a des... moi je suis très attachée à la notion de nuance qui était chère à Camus, un autre écrivain que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que maintenant, on n'est plus beaucoup dans la nuance, on n'est plus beaucoup dans, voilà, dans la discussion. Et les sujets tranchés, en fait, sont extrêmement rares. C'est rare qu'il y ait un truc, une vérité absolue, sans qu'on puisse contester quoi que ce soit, en particulier au niveau de l'idéologie. Et puis d'un côté, il y a l'idéologie. Et d'un autre côté, il y a la biologie. Alors la biologie, elle, elle a ses propres règles et elle se fout totalement d'idéologie. Donc si un animal est omnivore, bah, il est omnivore. Après, on peut penser ce qu'on veut. Il reste biologiquement omnivore et il va avoir des besoins qui sont liés à son espèce, quoi qu'on en pense. Voilà. Donc à partir de là, on a posé déjà la notion de nuance, puisque d'un côté on a l'idéologie et de l'autre côté on a la biologie. Mais on pourrait l'avoir sur d'autres sujets, on peut l'avoir sur la monogamie, voilà, oui. qui est une idée, mais il y a la biologie à côté qui n'est pas forcément... voilà. On peut l'avoir sur plein de sujets, cette notion de nuance et d'opposition d'idéologie à la biologie. Et dans cette... opposition d'idéologie à la biologie, on va aussi rencontrer le problème de l'agriculture industrielle, où là, effectivement, on est dans la même problématique qu'avec l'animalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des animaux avec des possibilités biologiques qui vont limiter, en fait, l'idéologie qu'on se fait de la production. Voilà. À un moment donné, je dis toujours, une vache, au bout d'un moment, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Enfin, voilà, il y aura du lait qui va sortir, mais à un moment donné, il y aura une limite biologique, on ne pourra pas aller au-delà. Et ça, c'est aussi, voilà, une discussion avec la nuance, avec beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en compte et qu'on ne retrouve pas du tout dans aucune des idéologies, que ce soit l'animalisme ou les agro-industriels. Ils sont tous dans une optique hyper, hyper cadrée, mais ils mettent de côté tout ce qui est réalité biologique et ça, bah, du coup, ça fait que c'est une discussion de sourds, quoi.
Ouais, et puis on dira que personne n'a la science infuse, hein.
Alors, c'est bien qu'il y ait de la science parce que ça permet d'avoir des bonnes bases, mais c'est souvent ce qui manque.
Ouais.
Et puis après, la science, on l'arrange à sa sauce très souvent. Mais en biologie, en général, c'est rarement des problèmes unifactoriels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui s'ajoutent, le milieu, le contexte économique, social, etc. Et on ne parlera pas de la même façon, justement, dans un endroit du monde et dans un autre endroit du monde, ni même dans un autre endroit de France. Donc voilà, c'est très compliqué d'avoir des œillères et de voir qu'une façon de voir quand on s'occupe du vivant, en fait. Voilà. Peut-être que dans des domaines type l'aéronautique, tout ça, il y a des trucs beaucoup plus carrés, ça me paraît logique pour faire voler une masse de tôle. Mais par contre, sur la biologie, il y a beaucoup de chemins détournés, puis surtout, il y a des règles que la nature apprécie, qu'elle aime contourner et qui ne sont pas les nôtres. En particulier, ben, nous, on aime bien avoir des races d'animaux qui, parce qu'ils ont telle et telle utilité, ils ont telle et telle production. La nature, elle a horreur de ça, hein. Elle aime quand c'est tout mélangé, y compris au niveau végétal, hein. Quand vous avez toujours le même végétal, bah, il va être sensible à des maladies, etc. Alors que quand vous voyez une prairie, bah, il y a plein d'espèces différentes, parce que justement, certaines vont résister au piétinement, d'autres vont résister à la sécheresse, etc. La nature, c'est quand même super bien foutu. Et nous, en essayant de la contourner d'un côté comme de l'autre, on se prend souvent les pieds dans le tapis, quoi.
Et dans les études de vétérinaire, on fait beaucoup de biologie.
Bah oui, c'est la base.
C'est la base, non, mais je connais pas du tout.
C'est la base.
Donc c'est pour ça que vous êtes très pointu sur la biologie, quoi.
Eh ben en fait, oui, c'est la base déjà, c'est la science avec la démonstration et la discussion, puisque dans la science, au début, on ne sait pas. On cherche, on trouve, et toute grande découverte, en fait, a toujours été contestée au départ. Ce qu'on a vécu, par exemple, au moment du Covid, les discussions, etc., elles sont normales en science. Sauf qu'avant, ça se faisait dans des amphithéâtres d'université. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc tout le monde a accès à tout. Mais effectivement, il y a, quand Pasteur a été le grand découvreur de la microbiologie, un Français quand même, la fierté énorme. Et eh ben au départ, il a été très contesté puisque ça faisait des siècles qu'on faisait autrement, Du coup, bah, il a fallu effectivement un long moment pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et puis, la biologie est toujours en évolution. On fait sans arrêt des découvertes. On peut réfuter certaines choses qui étaient connues avant. C'est pour ça que, du coup, avoir un dogme hyper carré, c'est bête, parce qu'en fait, c'est en évolution permanente. Et on se doit de démontrer une nouvelle chose pour qu'elle soit acquise.
Voilà, donc on a compris que donc le dernier, hein, c'est enfin c'est, oui c'est celui qui vient qui est sorti il y a longtemps, non,
il est sorti au printemps celui-là.
Printemps, donc le mouroir des végans. Vanessa Fuchs, qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, et le bruit de ses talons, c'est l'éditeur, ça.
Voilà.
C'est marrant comme.
Oui.
C'est, ils sont toujours sur Paris.
Oui.
D'accord.
À Paris rive gauche, c'est le pays de l'édition.
Ah oui. D'accord.
On se demande s'ils arrivent à traverser la Seine de temps en temps. C'est compliqué.
Bah, c'est difficile parce qu'apparemment elle est polluée.
Oui.
Non, bon, je rigole là. Parce
c'est mal barré là pour les JO quand même.
Et alors, bien sûr, puisque vous m'avez dit, mais souvent les auteurs qui viennent. Il y en a toujours un sur le coude, voire deux. Alors, vous me dites que vous êtes en train d'en écrire un autre.
Oui, je suis en train d'en écrire un autre.
Et ça parlera de quoi?
Alors, j'ai déjà le titre, ça s'appelle « Les affligés ». Et ça va être un polar aussi, mais un peu historique. C'est l'histoire de trois anciens soldats de la guerre de 14 qui se retrouvent mutilés après la guerre, comme ça a été le cas de beaucoup de jeunes hommes. Et ils sont un peu exclus de leur famille du fait de cette mutilation. Et on va les envoyer dans la demeure d'une vieille tante complètement grabataire en Haute-Loire, justement, et pour un peu les isoler. Voilà, les familles sont ou des familles parisiennes ou des grandes familles lyonnaises qui n'ont pas envie d'avoir des gueules cassées à la maison. Et bon, ben, déjà, ils vont se reconstruire un peu tous les trois. Et ils vont quand même s'ennuyer et du coup ils vont commencer à s'intéresser aux petits faits divers locaux et à mener l'enquête avec leurs handicaps respectifs.
D'accord.
Voilà.
Et alors bon, je pense qu'on trouve vos livres dans les librairies quand même.
Oui, bien sûr, c'est diffusé largement. Alors moi je préfère toujours quand on commande à la petite librairie de quartier plutôt que sur les grands distributeurs internet.
Surtout ici, on est bien équipé. Hein.
Voilà, donc en fait, oui, dès lors qu'on on le demande à son libraire, il peut le commander très très facilement.
Mais écoutez, Vanessa, merci d'avoir été avec nous. Je vous ai découvert, puis je pense que les auditeurs vont vous découvrir, à part ceux qui vous connaissent déjà par votre métier. Et puis, on espère beaucoup de romans encore, parce que vous avez l'air d'être... On a compris que vous étiez passionné quand même.
Oui.
Et bon, je dirais, bonne chance pour votre nouvelle vie, on peut dire un petit peu quand même, avec cette ferme près du son en forêt. Ouais, la Loire, Haute-Loire, hein, on n'est pas très loin. Alors, pour terminer l'émission, puisque vous m'avez beaucoup parlé, vous étiez en Alaska. Alors, j'ai trouvé cette chanson qui est magnifique, bien sûr. C'est La complainte du phoque en Alaska par Beaudommage.
Crémoué, crémoué, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner ballon sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son
Voilà donc, cet invité de jeudi est terminé. On recevait Vanessa Fuchs, qui nous a parlé un petit peu de sa vie, hein, et puis de sa vie de romancière. Donc je vous rappelle, cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, et mercredi à 12h30. Cette émission est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci encore de votre fidélité.
The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread.